VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h à Dakar au Sénégal. La police indienne a arrêté un sixième homme en lien avec l'agression d'étudiants nigériens par une foule en périphérie de New Delhi en début de semaine. Un groupe de jeunes nigériens avait été passé à tabac, certains à coups de chaises en métal et de bâtons, lundi soir à Greater Noida, en grande banlieue de la capitale indienne. Nouvel incident raciste donc envers la communauté africaine dans le pays. Cet incident, dont les brutales vidéos ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, a déclenché un tollé en Inde et à l'international. Le Nigeria a convoqué l'ambassadeur indien dans son pays pour demander la fermeté des autorités dans cette affaire. Au Sénégal, le mouvement Yanama a appelé tous les Sénégalais à se mobiliser le 7 avril dans une manifestation pour dénoncer, je cite, « les dérives du pouvoir de Macky Sall ». Cette campagne de contestation est baptisée « Trop c'est trop ». Malal Tala dit « fou malade », l'un des leaders de cette organisation, précise les raisons de cet appel à manifester contre le chef de l'État sénégalais.
Il n'y a pas une grande différence entre Macky Sall et Wade, parce que les principes pour lesquels nous combattions Wade, c'est les mêmes principes pour lesquels nous sommes en train de combattre Macky Sall. Parce qu'il s'inscrit en porte-faux avec ses engagements. C'est la même chose, c'est les mêmes pratiques politiciennes qui continuent. Et les Sénégalais en ont marre de tout ça. Macky Sall a promis 5 ans, il faut qu'il respecte son engagement. La parole donnée doit être respectée.
Impasse dans la mise en œuvre de l'accord politique en RDC. Le président Joseph Kabila s'est engagé à ramener les partis dans un consensus après le constat d'échec des évêques catholiques. La question fait débat dans la classe politique congolaise. Florentin Mokonda Bonza, sénateur congolais leader de la plateforme La Nouvelle Initiative pour le Congo, de passage à Washington, donne sa position.
Tout le monde faisait confiance aux évêques. Or, aujourd'hui, le rassemblement ne fait pas confiance au président de la République. Le président de la République semble ne pas faire confiance aussi au rassemblement. Et même nous autres, qui ne faisons partie ni à l'un ni à l'autre, nous nous méfions également et du président de la République et du rassemblement. Alors, je ne crois pas que le cadre que le président de la République propose soit le meilleur pour pouvoir trouver une solution. Je commence à craindre qu'au mois de décembre, nous ne soyons pas à mesure d'organiser les élections. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre personnalité de l'opposition en dehors du rassemblement pour diriger le gouvernement et aller de l'avant?
Florentin Mokonda Bonza, sénateur de la RDC. Le département d'État américain a annoncé le retrait de ses troupes à Obo, dans le sud-est de la République centrafricaine, à compter du 25 avril prochain, signalant que les troupes américaines sont impliquées depuis 2011 aux côtés de l'armée ougandaise dans la traque du chef de la LRA, Joseph Kony, dont les éléments se livrent sans cesse à des actes d'enlèvement et de violence sur la population civile. Le député de Obo, Ernest Misedio, exprime son inquiétude face à ce retrait au micro de Félix Yepassi Zembrou.
L'annonce du département américain de retirer cette troupe nous laisse dans une grande peur. Obo, aujourd'hui, épargné de tout ce qui s'est passé, les massacres de la Seleka, etc., etc., est guetté par au moins, en tout cas, une vingtaine de groupes armés inconnus qui n'attendent que cette occasion pour se jeter non seulement sur la ville de Bo, mais sur l'île du Mbomo. Parce que c'est grâce à la présence de l'armée américaine qui est suffisamment dissuasive que ces troupes-là n'ont pas attaqué ces villes.
Croyez-vous que ce retrait est lié au fait que depuis 2011, les troupes américaines n'aient pas réussi à mettre la main sur Joseph Kony? Autrement dit, selon vous, cette mission américaine a-t-elle été efficace ou pas?
L'arrivée des troupes américaines à Obo était une décision du président Barack Obama. L'arrivée de Trump amène une nouvelle politique. Si l'armée américaine, avec tous les moyens, avait mis tout en œuvre pour finir avec le phénomène de la LRA, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce n'est que petite affaire de rien du tout. 2011, on n'arrive pas à finir avec la LRA. Il y a des questions à se poser.
Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités centrafricaines pour pallier justement à ce vide laissé par des troupes américaines après leur départ?
L'appel est de tout mettre en œuvre pour que la formation des FACA entamée par le thème soit accélérée de façon à ce qu'on puisse avoir une troupe. Mais seulement, le blocage se trouve au niveau de l'embargo qui nous frappe, même s'il y a eu levé partiel et qui ne se traduit toujours pas dans les faits. Mais je crois que le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de réhabilitation de l'armée pour qu'on ait au moins un bataillon envoyé à Obo, dans le Mbomo en tout cas, pour essayer de pallier à ce vide. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre.
Ernest Mizedio, député de Obo dans le sud-est de la République centrafricaine, l'un des principaux dirigeants du Congrès national africain, l'ANC, a déploré aujourd'hui la décision du président Jacob Zuma de renvoyer le ministre des Finances, Pravin Gordhan, nouveau signe de division qui fracture le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Pour la première fois, les responsables de l'ANC n'ont pas pu se mettre d'accord ou accepter les changements, a commenté à la radio le secrétaire général du parti, Gwede Mantashe. Monsieur Zuma a annoncé dans la nuit un remaniement gouvernemental de grande ampleur, marqué par le limogeage de Monsieur Gordhan, avec lequel il était en conflit ouvert. Rabat, la capitale du Maroc, se met aux couleurs de l'Afrique pendant un mois avec une série d'expositions, de projections et de concerts dans le sillage de l'offensive diplomatique de Rabat sur le continent. Salwa Jafari.
Au musée Mohamed V d'art moderne et contemporain, les artistes parmi les plus célébrés d'Afrique subsaharienne exposent jusqu'au 28 avril. Les tableaux bariolés de Chéri Chérin côtoient ceux de Chéri Samba, les œuvres fantasques du fondateur de l'école du Zaïre dans la peinture populaire, Pierre Baudot, et les canevas du Nigérian Bruce Onobrak Peya, qui ont fait le tour du monde, sont maintenant visibles à Rabat. Mehdi Koutbi, peintre et président de la Fondation nationale des musées du Maroc, supervise l'événement.
L'essentiel, c'est de voir que le Maroc aujourd'hui, Rabat, ville lumière, capitale de la culture, est en train d'être un rendez-vous incontournable de la culture. Et c'est ça qui est important. Et en même temps, un vrai pont entre l'Europe et l'Afrique.
Dans une autre salle du musée, un hommage est rendu à trois photographes africains, le Malien Malik Sidi Bé, surnommé l'œil de Bamako. Les Marocains Atmen Dilami et Leila Alaoui ont également présenté d'imposants clichés du Tunisien Wahib Chehata, installé au Mali, ainsi que les œuvres de l'artiste hip-hop congolais Koukal Tadi. L'artiste malien Abdoulaye Konaté nous parle de l'importance de cette initiative.
Le fait que le Maroc s'intéresse globalement à toutes les manifestations culturelles au niveau de l'Afrique, il se trouve que cette année, le Maroc est revenu dans la communauté africaine sur le plan politique. Le Maroc était déjà là dans le domaine économique et culturel.
18 endroits de la capitale marocaine accueillent 36 activités et 32 pays africains, avec du théâtre, des conférences, des concerts, un match de gala entre une sélection africaine et européenne. Le thème de l'Afrique est devenu incontournable au Maroc, alors que le pays mène depuis des mois une vaste campagne diplomatique, politique et économique sur le continent, couronnée à la fin janvier par le retour du royaume au sein de l'Union africaine.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le bilan de l'attentat à la voiture piégée qui a ravagé aujourd'hui un marché dans une zone tribale du nord-ouest du Pakistan s'est élevé à 22 morts et 57 blessés, selon une source médicale. L'attentat s'est produit à proximité d'une mosquée chiite dans la ville de Parachinar, capitale de la zone tribale de Kouram. Les musulmans chiites, qui constituent environ 20% de la population pakistanaise, sont considérés comme des hérétiques par nombre de groupes armés pakistanais d'obédience sunnite qui les prennent régulièrement pour cible. Israël a déclenché de vives critiques des Palestiniens, de l'ONU et d'une ONG israélienne en annonçant hier la création d'une colonie en plein cœur de la Cisjordanie occupée, la première établie par un gouvernement israélien depuis plus de 25 ans. Le cabinet israélien a pris cette initiative malgré la réprobation internationale et l'appel de l'administration Trump à la retenue dans la colonisation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré ce vendredi, en visitant un camp de déplacés en Irak, le manque de ressources pour aider les habitants de Mossoul, confrontés à des combats meurtriers. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour soutenir ces gens, ni la solidarité internationale requise, a déclaré M. Guterres aux journalistes au camp de déplacés de Hassan Cham, à l'est de Mossoul. Ce déplacement intervient alors que les forces irakiennes tentent depuis 5 mois de reprendre Mossoul, la deuxième ville du pays dont les djihadistes du groupe État islamique s'étaient emparés en 2014. Et puis la FIFA a annoncé aujourd'hui avoir remis à la justice suisse le résultat de son enquête interne ouverte en juin 2015, juste après le déclenchement de la plus grave crise de corruption de son histoire. Aucun détail n'a été communiqué sur le contenu de ce rapport, la FIFA étant juridiquement tenue de ne pas divulguer ou commenter les conclusions de son enquête. 40 personnes sont dans le viseur de la justice américaine dans cette affaire. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.